Dans ce quatrième épisode, je retrace le chemin de l'Ukraine après l'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir en URSS. J'entame donc un nouveau cycle qui a pour but d'analyser l'avènement de l'indépendance ukrainienne et les trois décennies qui ont suivi. Une analyse qui a pour but de redonner de la perspective sur l'Ukraine. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Le podcast qui vous fait voyager en Europe et dans le temps. Petit disclaimer avant de commencer. Dans cet épisode, je n'utilise pas toujours la prononciation ukrainienne des noms, simplement parce que c'est l'usage le plus courant qui en est fait. Pour une meilleure compréhension par les auditeurs francophones. Pour comprendre l'Ukraine des années 1980, il faut se replonger dans l'URSS de Léonid Brejnev. Brejnev qui, par un complot envers Khrouchtchev, récupère le leadership de l'Union soviétique le 14 octobre 1964. Brejnev, c'est le retour aux fondamentaux staliniens. On appelle son règne la stagnation. Sur le plan économique, l'URSS semble perdre du terrain face à l'Occident. Son retard se traduit notamment par le peu d'innovation qu'elle peut proposer. Et pire encore, elle doit importer des machines pour produire des biens de consommation. Dans ce contexte, la République soviétique socialiste d'Ukraine ne fait pas exception. Entre 1966 et 1985, la RSS d'Ukraine voit son taux de croissance industrielle passer de 8,5% à 3,5% et sa croissance agricole de 3,2% à 0,5%. L'Union soviétique s'enfonce de plus en plus dans la dépendance à l'exportation de ses énergies fossiles que sont le gaz et le pétrole. Sur le plan géopolitique, même si Brejnev a permis le dégel avec les accords SALT I et SALT II, qui permettent la non-prolifération des armes nucléaires, et les accords d'Helsinki qui octroient plus de droits aux dissidents, la guerre froide change de visage. La crise des euromissiles éclate en 1977, menaçant directement les pays d'Europe occidentale avec le placement d'armes nucléaires de portée intermédiaire dans les pays satellites de l'URSS. Pire encore, les agents doubles au service du KGB sont légion dans tout l'Occident. La Chine de Mao est concurrente de l'URSS, notamment après un accrochage près du fleuve Oussouri, qui a failli virer à la guerre en 1972. Léonid Brejnev engage l'armée rouge en Afghanistan le 27 décembre 1979. Pour en venir en aide à la junte communiste arrivée au pouvoir. Les Moudjahidines sont soutenus par les États-Unis qui les équiperont à hauteur de 2 milliards de dollars sur les 10 ans du conflit via leur allié pakistanais et par la Chine qui s'est rapprochée des États-Unis après la visite du président Nixon en 1972. L'Iran soutient aussi les Moudjahidines proches de sa frontière. L'URSS étant considéré comme le diable athée qui s'en prend à un voisin islamique. Dans sa gestion des satellites, Brejnev prône le respect de la doctrine de Moscou par la force. Il fait réprimer le printemps de Prague en usant du pacte de Varsovie en 1968, permettant la répression avec les chars en Tchécoslovaquie. En ce qui concerne l'Ukraine durant l'ère Brejnev, c'est avec Petro Tcheleste aux commandes de la RSS d'Ukraine. Tcheleste est un patriote ukrainien, sensible aux arguments d'Ivan Dziuba, auteur russophone de la région de Donetsk, qui, dans son livre « Internationalisation ou russification », remet en cause la politique de russification en Ukraine. Tcheleste est démis de ses fonctions en 1972 et est remplacé par Volodymyr Chtcherbitsky, qui tient la RSS d'Ukraine d'une main de fer jusqu'en 1989. Il est l'un des relais les plus zélés des républiques soviétiques. Sous son règne, beaucoup de dissidents ont droit à des procès expéditifs, sont forcés à l'exil ou, entre guillemets, suicidé. Le goulag étant de moins en moins la norme, le pouvoir soviétique emploie la camisole chimique dans les hôpitaux psychiatriques. Sous le règne de Chtcherbitsky, la RSS d'Ukraine subit une cure de russification importante. L'ère Brejnev s'éteint en novembre 1982. Le Politburo est constitué de vieillards qui sont quasiment tous malades. Chtcherbitsky a des chances de lui succéder, du haut de ses 65 ans, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes du Politburo. Il aurait pu permettre à la section du Parti communiste de Dnipropetrovsk d'avoir un troisième secrétaire général du PCUS de suite, après Khrushchev et Brejnev. Mais c'est finalement le patron du KGB, Youri Andropov, qui lui succède. Malgré son discours de la main tendue vers l'Occident, il ne parvient pas à convaincre la communauté internationale. L'affaire Farewell, qui porte le nom de code de l'agent double du KGB et de la DST, Vladimir Vetrov, a permis à la France d'expulser plusieurs dizaines d'espions soviétiques qui se faisaient passer pour des diplomates en 1983. C'est un énorme revers pour Andropov. Il décède le 9 février 1984. Konstantin Tchernenko lui succède. Il passe le plus clair de son temps à l'hôpital et succombe seulement 9 mois après son prédécesseur. C'est dans cette instabilité politique et économique que Mikhail Gorbatchev arrive. Il est choisi parce qu'il est considéré comme le champion dans le domaine agricole. Il est aussi très jeune par rapport au reste du Politburo, puisqu'il a 54 ans. Il a le contact facile avec la population, et il n'hésite pas à aller dans la rue, avec peu de sécurité autour de lui, pour discuter avec la population. Mikhail Gorbatchev arrive avec de grandes ambitions pour l'Union soviétique. On le dit patriote soviétique avec un penchant russe. De ses années universitaires, il a pu rencontrer des communistes d'ailleurs, notamment un de Tchécoslovaquie. Il se prend à avoir de l'enthousiasme pour le socialisme à visage humain prôné par Alexander Dubček, le leader tchécoslovaque soutenu par le printemps de Prague en 1968. Pour Gorbatchev, le seul moyen de remettre l'URSS sur les rails de la compétitivité est de moderniser son économie. C'est l'objet de ces réformes que sont la perestroïka et la glasnost. La perestroïka, que l'on peut traduire par restructuration, est une série de réformes qui ont pour but de réduire les lourdeurs du régime communiste et tourner l'économie vers les usagers et de la rendre plus efficiente. Il met fin à la collectivisation en restituant les terres agricoles aux paysans, en leur signant un bail de 50 ans. Il permet l'auto-entrepreneuriat. Il laisse de l'autonomie aux grandes entreprises d'État, avec une certaine exigence de qualité. Pour la glasnost, que l'on traduit généralement par transparence, mais que l'on peut traduire aussi par publicité, vient compléter la restructuration. Sur la glasnost, l'objectif est d'ouvrir, avec parcimonie, la liberté d'expression. Pas question d'abolir la censure de manière totale, puisque des auteurs de livres contemporains doivent toujours passer par un comité de lecture, comme Svetlana Alexievitch, qui a dû sacrifier quelques parties de son livre « La guerre n'a pas un visage de femme ». Mais des médias comme Ogonyok ou Argumenti i Fakti sortent du discours de la nomenklatura et ont un positionnement plus libéral. L'arrivée de Gorbatchev soulève l'enthousiasme au niveau international, car il rompt avec ses prédécesseurs, avec une volonté d'emmener l'Union soviétique vers la modernité. Mais dès son arrivée, ce n'est clairement pas une promenade de santé. Deux facteurs vont compliquer drastiquement l'action de Gorbatchev, la guerre d'Afghanistan et Tchernobyl. La guerre en Afghanistan ne devait durer que quelques semaines ou quelques mois. Ça ne vous rappelle rien ? Très vite, dès le début des années 80, l'URSS parvient à contrôler les grands axes qui relient les grandes villes d'Afghanistan. Mais aucune information ne parvient à l'URSS. La propagande a seulement indiqué que c'était une guerre humanitaire destinée à aider leurs frères communistes en Afghanistan. Rien n'est même indiqué sur les livrets militaires avant 1983. 600 000 soviétiques combattent sur les 10 ans du conflit, dont 160 000 ukrainiens. Une fois que Brejnev a rendu l'âme, les généraux sont bien dans la capacité de faire mieux et le Politburo est incapable de prendre une décision stratégique. Le conflit se fige. Mais même si la propagande n'en parle pas, les cercueils de zinc reviennent à la maison. Ces cercueils de zinc sont un vrai symbole. C'est d'ailleurs devenu le titre du recueil de témoignages sur la guerre d'Afghanistan, écrit par Svetlana Alexievitch et paru en 1989. Les familles ne peuvent pas ouvrir ces cercueils scellés et ne peuvent donc pas reconnaître leurs proches. Pour la plupart, ce sont des soldats très jeunes, parfois à peine sortis du système scolaire. La guerre en Afghanistan est très mal perçue en URSS. Les soldats de retour du front sont vus comme des hommes violents ou toxicomanes, puisqu'on les dopait pour les envoyer au combat. L'Union soviétique soutenait l'aide alimentaire en Afghanistan, alors même que ses magasins n'étaient pas bien achalandés. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, l'Union soviétique est embourbée face à la guérilla des Moudjahidines, qui maîtrisent mieux les montagnes. Ils tentent un coup de poker en renforçant les moyens militaires. Mais dans le même temps, les États-Unis, via leurs alliés pakistanais, font parvenir des lance-missiles Stinger qui font beaucoup de mal à l'armée de l'air soviétique. Avec la perestroïka, la critique sur la guerre s'ouvre. Incapables de dominer les airs, faisant face à des guerriers qui n'ont pas peur de mourir, l'armée soviétique ne progresse plus. Même les hommes du commandant Massoud, isolés dans le Panjshir, au nord-est du pays, et qui ne bénéficient pas des armes occidentales, tiennent tête aux soviétiques. En février 1988, Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques. Un retrait total et définitif, qui s'effectue le 15 février 1989, un an après. C'est un revers considérable pour l'URSS, qui vit avec l'Afghanistan l'équivalent du Vietnam pour les États-Unis. L'Union soviétique s'est lancée avec l'idée de soutenir ses frères internationalistes, reposant sur l'héritage de la Grande Guerre patriotique, nom qu'il donne à la Seconde Guerre mondiale. Une déroute qui porte un coup dur à la puissance internationale de l'URSS. Puis il y a aussi le 26 avril 1989. Alors que les employés de la centrale de Tchernobyl simulent une panne de courant pour tester la sécurité de la centrale, le test ne se passe pas du tout comme prévu. Le réacteur 4 perd énormément de puissance. Par la manœuvre des employés de la centrale, le réacteur regagne de la puissance. Trop de puissance. La pression est telle que le réacteur numéro 4 explose. Du graphite s'envole dans le ciel de Pripyat. Tchernobyl, c'est l'équivalent de 500 fois Hiroshima. 7 millions de soviétiques, dont 1,4 million d'Ukrainiens, sont touchés. Les vents ont poussé le nuage radioactif vers le Bélarus, plus sévèrement touché. Les autorités ont décidé de créer une zone d'exclusion de 30 km. 90 000 habitants sont évacués. Comme les témoignages l'indiquent dans le livre « La supplication » de Svetlana Alexievitch, les locaux, autant que les pompiers, que les étudiants en médecine ou que les liquidateurs, n'avaient que très peu d'informations et étaient très mal équipés. Beaucoup ont été envoyés à la mort, purement et simplement. C'est le KGB qui a géré la catastrophe pour éviter de créer un mouvement de panique. mais dans le contexte de l'instauration de la glasnost, cela a créé un climat de méfiance envers les autorités. Alors que Chtcherbitsky et l'ensemble de l'élite communiste voulaient annuler les défilés du 1er mai pour la fête du travail et le 9 mai pour la victoire de la Grande Guerre patriotique, Gorbatchev lui-même a donné l'ordre de maintenir les cérémonies. Il ne reconnaît que le 14 mai, lors d'une allocution télévisée, que les conséquences sont plus graves que ce qui est annoncé, mais que le secret d'État l'empêchait de le dire jusque-là. La confiance envers le pouvoir soviétique s'est lourdement détériorée. Et c'est dans ce contexte que les Ukrainiens profitent des brèches qui s'ouvrent. En décembre 1986, au Kazakhstan, a lieu l'insurrection de décembre, surnommée Jeltoksan. Les Kazakhs s'insurgent du fait que le président du Soviet suprême, Dinmuhamed Konaïev, ethniquement kazakh, soit remplacé par Gennady Kolbin, ethniquement russe. Ils se sentaient comme des citoyens de seconde classe dans leur propre république, l'administration étant majoritairement constituée de Russes. Ce sursaut national est le premier de l'Union soviétique. Et avec la glasnost qui se met en place, ce sont des opportunités qui s'ouvrent pour les revendications nationales. La réforme de la glasnost est adoptée en mars 1986, au forceps, lors du 27e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. En Ukraine, Volodymyr Chtcherbitsky, le président du Soviet suprême ukrainien, le Parlement soviétique de la RSS d'Ukraine, est contre la glasnost, car il pense que cela va ouvrir la porte aux nationalistes. Et il n'a pas forcément tort. Mais il ne faut pas entendre nationaliste dans le sens européen occidental d'aujourd'hui. À la fin des années 80, cela fait presque 3 siècles que les Ukrainiens sont dominés par l'Empire russe, puis l'URSS, quasiment sans discontinuer, avec des vagues de russification intenses. Glasnost, c'est l'opportunité pour les dissidents de sortir du bois, de pouvoir enfin faire valoir leurs opinions en craignant beaucoup moins d'atterrir en prison. En 1986, le sculpteur Ivan Onchar et les écrivains Ivan Drach et Ivan Dzyuba, tous les 3 anciens prisonniers politiques, créent la société Taras Chevchenko pour la langue ukrainienne. Ils défendent l'existence de la langue ukrainienne et son enseignement. La glasnost, c'est aussi l'opportunité de rouvrir certains dossiers tabous, notamment la société ukrainienne Mémorial, qui remet à l'agenda les débats sur les crimes soviétiques, comme l'annexion de la République populaire d'Ukraine en 1922, le Holodomor qui est la famine provoquée par Staline en 1932-1933 dans les campagnes ukrainiennes, ou encore la résistance ukrainienne lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale contre l'occupant soviétique. Entre 1986 et 1988, plusieurs dissidents sont libérés, notamment Vyacheslav Tchornovil, Levko Loukianenko ou encore Yuri Badzo, qui ont souffert depuis l'ère Khrushchev de la répression de leur patriotisme. Ils rétablissent l'Union ukrainienne d'Helsinki au printemps 1988, qui rassemblait les dissidents ukrainiens après la conférence d'Helsinki, mais dissoute au début des années 1980. Ils sont là pour défendre les droits fondamentaux et revendiquer une autonomie politique de l'Ukraine. L'Union retrouve son existence juridique le 7 juillet 1988. La dynamique est avec eux. Sur la question religieuse, il faut revenir en 1987. Le mouvement pour la relégalisation de l'Église uniate, aussi appelée Église gréco-catholique, qui reconnaît l'autorité du pape, fait son apparition. Cette église se trouve essentiellement à l'ouest. À l'ouest, c'est aussi là où se trouve le cœur du mouvement nationaliste renaissant. Même la musique se fait une place. Des groupes de post-punk font leur apparition. Dans la foulée de Kino, le groupe russe mené par Viktor Tsoï, connu pour son titre Peremen, les groupes ukrainiens Vopli, Vidopli, Asova, ici avec leur morceau Bouli Dienki. Ou encore Kolechki Assessor, ici avec l'extrait de Symphonia Odin Hispanska. Émergent. Ils se produisent clandestinement, faisant face au refus des autorités de cautionner cette musique qu'ils considèrent antisocialiste. Le contexte économique et social est donc largement favorable pour revendiquer des droits, quels qu'ils soient. Mais reste que ces revendications doivent s'agréger dans une plateforme politique pour gagner en importance. Dézoomons un instant pour revenir sur l'Union soviétique dans son ensemble. Les années 1987 et 1988 sont charnières dans l'opposition. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode 1 consacré à la voie balte, c'est à ce moment-là que naissent les fronts populaires lituaniens, lettons et estoniens. Dans l'épisode 3, consacré à Solidarność, cela correspond aussi au desserrement de l'emprise du général Jaruzelski et du PZPR, et aussi des premiers accords entre Solidarność et le parti unique pour une transition démocratique. En Ukraine, cet élan est incarné par le mouvement populaire ukrainien pour la reconstruction, autrement dit pour la perestroïka, simplement nommé RUR, le mouvement, créé début septembre 1989. Ce mouvement citoyen implique les anciens dissidents, membre de l'Union ukrainienne d'Helsinki, Vyacheslav Tchernovil en tête. Le discours glisse rapidement vers l'indépendance, bien aidé par la dynamique lancée par les mouvements historico-culturels et religieux ukrainiens. Au niveau de l'URSS, Gorbatchev essaye tant bien que mal de se débarrasser de la vieille garde communiste. Solidarność entre au Parlement polonais en juin 1989. Le mur de Berlin s'effondre en novembre. L'URSS laisse apparaître de grandes failles, une opportunité énorme pour les mouvements indépendantistes. Il pousse le président du Soviet suprême ukrainien Volodymyr Chtcherbitsky, un des leaders de la Fronde conservatrice, vers la sortie du Politburo en septembre 1989, prétextant des problèmes de santé. Le Soviet suprême d'Ukraine fait de même et octroie l'intérim à Volodymyr Ivashko. En décembre 1989, Mikhail Gorbatchev parvient à faire adopter la création du Congrès des députés du peuple soviétique et convoque les premières élections au suffrage universel direct au printemps 1990. Il y adjoint la création du poste de président de l'URSS pour enlever l'emprise totale du Parti communiste sur le pouvoir. Le Parti communiste se déchire, et même ses plus farouches soutiens prennent leur distance. Au printemps 1989, les mineurs se mettent en grève et n'acceptent plus leurs conditions de travail, leur salaire, le nombre de jours de congé qu'ils considèrent faibles par rapport au risque pris. Ils se plaignent aussi de la corruption au sein de l'administration minière. En Ukraine, c'est dans le Donbass et dans l'oblast de Dnipropetrovsk, à Pavlohrad, que le mouvement de grève se tient. Puis ensuite, à Tchernovohrad, du côté de Lviv, suit. Le pouvoir central soviétique fait tout pour calmer la colère. Les mineurs, qu'on considérait passifs, soutien indéfectible du Parti communiste jusque-là, ne s'y retrouvent plus. Ils ont fait la gloire de l'URSS, notamment incarné par Stakhanov, mais il paye le prix fort du déclin soviétique. Il s'inspire de Solidarność en créant des comités locaux partout en URSS et prône l'autogestion des mines. Gorbatchev veut que les ministres se rendent sur place et disent oui à tout. Mais ils ne tiennent pas du tout leurs promesses. Les premières élections du Congrès des députés du peuple, fin mars, début avril 1990, sont un revers énorme pour les communistes conservateurs. Même si l'élection n'est pas intégralement au suffrage universel direct, les sièges soumis à celui-ci profitent aux réformistes, aux libéraux et aux indépendantistes. Dans les États baltes, les fronts populaires obtiennent une victoire écrasante. Ils sont largement favorables à l'indépendance. Au mois de juin, Solidarność entre au Parlement en Pologne. Gorbatchev ne s'oppose pas à l'indépendance des pays d'Europe centrale. Au mois de juin, Solidarność profite des élections au suffrage universel direct et total pour entrer en force au Parlement polonais. Gorbatchev ne s'oppose pas à l'indépendance des pays d'Europe centrale, il ne les considère pas comme faisant partie de la sphère d'influence historique russe. Le bloc démocratique, dont Ruhr fait partie, obtient 117 sièges sur 450, majoritairement dans l'ouest du pays. Le parti communiste reste maître à bord, mais les clivages se font de plus en plus importants en interne. L'Ukraine s'affirme toujours plus, à plusieurs niveaux. En 1989 et 1990, renaissent les églises d'Ukraine, respectivement l'église gréco-catholique et l'église autocéphale d'Ukraine, qui cherchent à prendre ses distances avec le patriarcat de Moscou. Le 23 janvier 1990, une chaîne humaine relie Kiev et Lviv pour célébrer l'attachement de l'Ukraine occidentale à la République populaire d'Ukraine, la première république ukrainienne indépendante. Tous les emblèmes de cette république sont réhabilités, notamment le drapeau bleu et jaune. Les communistes sentent le vent tourner après les élections du Congrès des peuples d'Union soviétique. Ils sont majoritaires au Soviet suprême et écoutent les revendications de Ruhr avec attention. Au cours de l'année 1990, le journaliste et historien polonais Adam Michnik, alors élu sur la liste de Solidarność au Parlement polonais, emmène une délégation à Kiev pour assurer les Ukrainiens du soutien des Polonais. Il y avait une crainte des deux côtés que les deux pays se déchirent sur les questions territoriales. Les Polonais ne réclament pas les terres transférées à l'Ukraine en 1945, ce qui facilite grandement les relations diplomatiques bilatérales. Le 16 juillet 1990, c'est certainement un premier pas décisif qui se précise. Le Soviet suprême d'Ukraine, le Parlement, adopte sa déclaration de souveraineté. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? En clair, le Soviet suprême ukrainien indique que son droit national est supérieur au droit fédéral et qu'en conséquence, il peut disposer de ses propres ressources comme il l'entend, comme délivrer une citoyenneté propre et se doter d'une armée et d'une monnaie. Plusieurs autres républiques soviétiques font de même. Tout s'accélère. Fin juillet, l'intérim de Volodymyr Ivashko prend fin à la tête du Soviet suprême d'Ukraine. C'est Leonid Kravchuk, ancien responsable de la propagande au sein du Parti communiste ukrainien, qui est élu président. On lui reprochera longuement son rôle au sein du Parti communiste, mais il a mené la frange modérée des communistes et a habilement récupéré l'agenda politique de Ruhr. Lui qui est né dans l'Ouest, qui connaît les thèmes chers au soutien du Parti communiste, il parvient au parfait équilibre pour entamer une transition vers une démocratie. Les efforts citoyens se poursuivent. Les 3 et 4 août 1990, Ruhr et la société Taras Shevchenko pour la protection de la langue ukrainienne célèbrent les 500 ans de la Sich Zaporog, l'organisation étatique des Cosaques dont les Ukrainiens se revendiquent comme les héritiers directs en marchant de Kiev à Zaporizhia. Mais il faut attendre la jeunesse pour avoir une première vraie confrontation. On l'appelle le Maïdan de granit. Il débute le 2 octobre 1990. Des étudiants de Lviv, de Kiev et de Dnipropetrovsk convergent vers la place de la Révolution d'Octobre, ancien nom de la place de l'indépendance, Maïdan. Ils sont 150 à faire la grève de la faim et à demander la démission du premier ministre ukrainien Vitali Masol, la suppression du service militaire soviétique, ainsi qu'une enquête soit faite sur les nationalisations, sur les propriétés détenues par le Parti communiste, mais surtout, ils réclament de nouvelles élections, cette fois libres et ouvertes à 100%. Les parlementaires communistes font envoyer la police pour déloger les étudiants et arrêter un des élus du bloc démocratique qui les soutient. Le maire de Kiev, de son côté, refuse d'interdire la manifestation et 50 000 Kieviens viennent les soutenir. Kravchuk et la frange modérée du Parti communiste parviennent à convaincre les plus conservateurs. Les étudiants sortent victorieux de cette confrontation et ont même le droit de prendre la parole à la télévision. La colère ne redescend pas non plus chez les mineurs qui reconduisent la grève en octobre 1990. Une difficulté supplémentaire se dresse sur la route de Gorbatchev. La République socialiste fédérative soviétique de Russie reconnaît la souveraineté de l'Ukraine qui lui donne la réciproque. Même s'il propose une réforme de décentralisation de l'Union, les forces centrifuges sont à l'œuvre. Il n'y a pas encore de garantie d'indépendance pour l'Ukraine. Gorbatchev reste profondément attaché à l'Union soviétique et veut la préserver à tout prix. C'est pour ça qu'il propose au référendum une réforme constitutionnelle qui donnerait plus de compétences aux républiques, glissant vraisemblablement vers une confédération. Le 17 mars 1991, ce référendum récolte 80% de oui sur l'ensemble de l'URSS, le oui atteignant 70,5% en Ukraine. D'après les sondages, ce oui signifie deux choses. Certains considèrent que l'Union soviétique doit subsister, d'autres voient cette réforme comme une étape de transition vers l'indépendance. Mais même si ce référendum semble valider la légitimité de Gorbatchev, la rivalité avec Eltsine en Russie grossit de semaine en semaine. Fin mars 1991, les grèves de mineurs sont durement réprimées. Les mineurs réfractaires sont licenciés sans ménagement et l'administration les attaque au tribunal pour grève illégale. Leur soutien se déporte donc vers Boris Eltsine. D'ailleurs, ce dernier se présente à la présidentielle de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et gagne dès le premier tour avec 58,6% des voix. Il lance très vite les discussions pour une union plus souple. Il s'entend d'ailleurs avec le président kazakh Nursultan Nazarbayev au mois de juillet 1991. Le président des États-Unis, George Bush, se rend le 1er août à Kiev et tient un discours devant le Soviet suprême. Il demande aux Ukrainiens de renoncer à l'indépendance pour ne pas affaiblir Gorbatchev, qu'il considère comme un allié fiable, et aussi par crainte qu'une guerre entre les républiques pourrait dégénérer en une guerre nucléaire, étant donné que l'arsenal soviétique est réparti dans toutes les républiques soviétiques. Dans ce domaine, l'Ukraine dispose alors du 4e arsenal nucléaire au monde. L'été 1991 sonne pour de bon le glas de l'URSS. Même si la danse des petits signes de Tchaïkovski est la douceur incarnée, elle traduit un événement d'ampleur. Le 19 août 1991, Gorbatchev, alors en vacances dans sa datcha en Crimée, est séquestré par des conjurés sous l'instigation de son vice-président, Gennady Yanayev, et de son premier ministre. Ils ne veulent pas de la réforme de l'Union. Le coup d'État dure 2 jours. Boris Yeltsin assume son statut de président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie en demandant aux moscovites de s'opposer aux chars qui ont envahi la ville. Kravchuk reste prudent et ne se prononce pas. Yeltsin surpasse Gorbatchev en termes de popularité. Gorbatchev a perdu tout crédit politique. Dans ce contexte, l'Ukraine, via son soviet suprême, déclare l'indépendance de l'Ukraine le 24 août 1991. La déclaration est rédigée par Loukianenko, dissident qui a passé plus de 25 ans en colonie de travail. 346 parlementaires ont voté pour, 5 se sont abstenus et 2 ont voté contre. Beaucoup de républiques soviétiques font de même. L'Ukraine rétablit officiellement les emblèmes de la Première République ukrainienne. Gorbatchev indique qu'en cas d'indépendance, la Russie aura toute légitimité pour discuter des frontières. Même son de cloche du côté d'Yeltsin, par son attaché de presse qui indique que la Crimée et le Donbass seront un sujet de contentieux. Il envoie même son vice-président, le général Rutskoy, pour arracher ces deux régions à l'Ukraine. Cette déclaration d'indépendance doit encore être validée par référendum. Le soviet suprême ukrainien décide d'organiser une élection présidentielle et un référendum le 1er décembre 1991. La Crimée veut tenir un référendum séparé, mais Kravchuk convainc ses responsables de ne pas le faire. D'après les sondages, juste après cette annonce, les Russes, qui sont 11 millions sur les 52 millions d'habitants que compte l'Ukraine, et les Juifs, considérés comme une nation historiquement et qui représentent 500 000 habitants, sont majoritairement favorables à l'indépendance de l'Ukraine. En novembre, ce sondage indique que 58% des Russes d'Ukraine et 60% des Juifs sont favorables à l'indépendance. Le 1er décembre, le référendum d'indépendance récolte 90,35% de oui pour 84% de participation. Tous les oblasts ukrainiens votent majoritairement pour l'indépendance, même si la Crimée a dit oui d'une courte tête avec 54,2%. Leonid Kravchuk gagne haut la main la présidence face à 5 autres candidats avec 62% dès le premier tour. Vyacheslav Tchernovil, le leader de Ruhr, lui ne récolte que 23% des suffrages, la faute à un ancrage local puissant uniquement à l'ouest, mais aussi parce que Kravchuk a récupéré beaucoup de ses thèmes. Dès le 5 décembre, le Conseil suprême d'Ukraine vote la nullité du traité fondateur de l'URSS, signé en 1922. Boris Yeltsin tente une dernière fois d'empêcher l'indépendance de l'Ukraine. En premier lieu, il met en garde le président des États-Unis George Bush sur le fait que sans l'Ukraine, les populations islamiques de Russie seront majoritaires à terme. Puis lors d'une rencontre avec Stanislav Shushkevich, président du Bélarus, et Leonid Kravchuk, le 7 décembre au Bélarus, Boris Yeltsin tente une dernière fois de convaincre Leonid Kravchuk de lui céder la Crimée et le Donbass. Le nouveau président ukrainien lui rappelle que le référendum pour l'indépendance a atteint une majorité de oui dans tous les oblasts du pays, dans les oblasts de Louhansk, Donetsk et Crimée compris. Ils se mettent alors d'accord le 8 décembre pour la création de la communauté des États indépendants via les accords de Minsk. C'est une alliance beaucoup plus confédérale que l'URSS. Elle n'en a même pas le statut d'organisation internationale. Et choisir Minsk comme siège avait pour but d'éviter de tout centraliser à nouveau à Moscou. La CEI acte définitivement la fin de l'URSS. Le 21 décembre, les autres ex-républiques soviétiques, à l'exception des États baltes et de la Géorgie, adhèrent à la CEI par les accords d'Alma-Ata. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev annonce sa démission et la dissolution de l'URSS à compter du 1er janvier 1992. l'Ukraine peut définitivement jouir de sa liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de streaming, à le commenter et surtout à le partager. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner au contenu de l'Europe d'hier et d'aujourd'hui sur les plateformes de streaming, sur Facebook et sur Instagram, sur le tag LEDEDA, LEDHEDA, .podcast. Et retrouvez aussi l'Europe d'hier et d'aujourd'hui sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank pour soutenir la production de ce podcast. Je vous quitte sur Oyuluzi Chervona Kalina, interprété par le bandouriste Volodymyr Osipok en 1989. À bientôt sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Oyuluzi Chervona Kalina похилилася. Ось наша ненька.